Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Te verras.
Quoi, je suis ouvrier.
On est trop gentils.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus 106.6.
T'as le rhume, toi, ça s'entend.
Oui, j'ai un petit rhume de rien du tout. Aujourd'hui, comme tous les lundis, 19h-20h, on passe au rouge, une émission de lutte des classes réalisée par toi, Seb.
C'est une émission que tu animes, gros dada, en compagnie de Massi.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Salut Massi, tu nous viens avec ta chronique, tu vas nous parler de quoi en fin d'émission ?
J'avais pas envie de vous en parler là tout de suite.
T'es vraiment le même coup que la semaine dernière.
T'es vraiment à toi, c'est l'art de recevoir.
Exactement.
Voilà, pas de problème. Aujourd'hui, c'est une émission entièrement de reportage qu'on vous propose, pas d'invité donc. Et on partira vous écouter en manif.
Je la trahis, elle va quand même parler des manifs lilloises.
Est-ce que tu peux ne pas polluer mon
mystère,
intro
mystère.
Je pourrais aussi.
Oui, tu pourrais peut-être. Non, ça
surprenant,
va
incroyable. Si dérange, en fait, je vais parler des pandas.
Ah, très bien. Ah oui. Ah, je comprends mieux. Non mais je comprends mieux. Ben on retournera dans les rues de Lille jeudi dernier pour un reportage avec la CGT notamment, mais tous les manifestants pendant la retraite au Flambeau.
Oui, c'est vrai qu'ils sont mignons, les pandas.
Ils sont sympas, les pandas de la retraite au Flambeau. On assistera au débat entre un
panda roux et un panda blond.
S'il te plaît, qu'on avait déjà invité, Samuel Mégins, et un black bloc qui tient des propos. Vous allez voir. Enfin, on vous laissera écouter ça. On entend. Prendra un urgentiste également, et puis des avocats dans la manif de vendredi 24 janvier. Mais avant, et comme tous les lundis, on retrouve Jérôme Leroy et son talon de fer. Une chronique à relire dans Liberté Hebdo, bien sûr.
Souvenir d'une manif en janvier. Cela a eu lieu à Lille, quand la manif, celle du 9 janvier, est arrivée à la fin de la rue Faidherbe, ou peut-être juste après, en longeant la vieille bourse. La grande roue n'avait pas encore été démontée, les fêtes jouaient les prolongations, le mouvement social aussi. Il y a des moments, dans une manif, où vous pensez à autre chose, où vous devenez un promeneur solitaire au milieu du cortège, où vous cessez quelques minutes de communier avec la foule sans vraiment vous en rendre compte. C'est alors que j'entends une voix très douce, une voix de femme me demander « Quel poème avez-vous lu ce matin ? » Je suis un peu surpris et je réponds « Place Bretagne » de René Guy Cadou. Au milieu des slogans, des fumigènes, des détonations de pétards, sous le regard des CRS surarmés, qui jouent l'intimidation comme il convient quand le libéralisme offensif joue la stratégie du choc façon Naomi Klein, elle me dit « Moi, c'est Douceur » de Guy Vic. Nous récitons ensemble, sans nous être concertés, les premiers vers. Douceur, je dis douceur, des mots, quand tu rentres le soir du travail harassant et que des mots t'accueillent qui te donnent du temps. Je comprends alors pourquoi, enfin, elle me pose cette question. Quelques semaines plus tôt, dans un temps long de fer, j'avais parlé de la mélancolie de novembre, de la nécessité de refuser la fatalité du capitalisme, et de celle de lire un poème chaque matin, comme une prière laïque, pour changer le monde, pour se changer soi-même. Et nous voilà à parler de poésie en remontant la rue Nationale, dans une partie du défilé où se mélangeaient le PCF, les JC, quelques camarades belges du PTB, d'autres de la CGT et du CACtion. Puisqu'une manif, on oublie vite que c'est un organisme vivant, où, au bout d'un certain temps, les affinités personnelles, et les rencontres de hasard avec des camarades pas vus depuis longtemps rompent insensiblement la délimitation stricte entre les organisations. Cette femme à la voix douce, qui portait un badge de la cégette, je n'ai su son nom que quelques jours plus tard. Mais ce jour-là, j'ai seulement appris qu'elle avait été documentaliste, qu'elle était jeune retraitée, qu'elle avait travaillé dans un lycée des Valenciennois. Il s'est mis à pleuvoir, mais ce n'était plus très important. On a parlé de Guy Vic, de Jean Follin, de René Guy Cadou, de la poésie concrète de l'existence. Elle m'a raconté comment, pendant des randonnées solitaires, elle se récitait des poèmes, comment une fois, elle avait croisé une jeune fille sur un chemin ensoleillé qui tenait entre ses mains un insecte, une libellule blessée qu'elle ramenait au camping. Comme ça, elle vivra, avait dit la jeune fille. Et cette scène correspondait exactement au poème de Guy Vic qu'elle était en train de se réciter en se promenant. Je lui dis que cette histoire ferait un très bon poème, sans doute. Je ne lui ai pas dit, en revanche, que ce que nous vivions en ce moment précis pourrait aussi faire un très bon poème. Ce qu'il faudrait faire comprendre, et si je devais l'écrire, c'est que finalement, ce n'était pas un moment en marge de la manif, que cette conversation était aussi profondément politique, que nous exigions implicitement tous les deux que le capitalisme nous rende, ou au moins cesse de nous voler, ce que nous avons de plus précieux, le temps. Le temps de lire des poèmes, de les apprendre par cœur, le temps de voir le monde de façon nouvelle, révolutionnaire, grâce à la poésie, le temps de comprendre enfin à quel point, dès qu'on cesse de nous pourrir la vie avec un système économique aberrant, le monde est beau et que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors je la remercie, cette manifestante, et j'imagine sans mal que dans le monde à venir que nous désirons tous, dans ces manifs, on pourrait avantageusement remplacer « Bonjour, ça va ?» par « Quel poème as-tu lu ce matin ?»
On passe au rouge, retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
J'adore cette virgule parce qu'elle est plus longue que les autres. On était le vendredi 24 janvier et tu laissais traîner ton micro là dans une discussion. T'as capté une discussion, un débat entre Samuel Méjeans, qui est un des responsables de la communication de l'UDCGT, on peut le dire, et un Black Bloc, visiblement. Un bébé.
Un membre du Bloc, oui, c'est vrai, mais on va replacer un peu les choses dans leur contexte. Il y a eu plusieurs événements qui sont produits depuis 10 jours dans les manifestations lilloises. Plusieurs journalistes, hein, un certain nombre de journalistes, parfois indépendants, parfois officiels, se sont retrouvés être la cible de projectiles. On pense bien entendu à Antoine et à ses 3 points de suture, 1,5 cm de profondeur dans le crâne quand même, avec un gros pavé dans la tronche. C'est pas rien. Un journaliste de cette émission s'est pris lui aussi un roulement à billes de 300 grammes dans la jambe, ou quelqu'un visiblement visé dans le tas, quoi, hein, et ça venait toujours des manifestants. D'autres journalistes ont été la cible. Il y a aussi un membre du service d'ordre de la CGT, Roland Diagne, qu'on salue bien, au passage, en effet, qu'on interviewe souvent et qu'on va entendre d'ailleurs ce soir parler d'autre chose, parler de ce qui est l'essentiel en réalité, c'est-à-dire le fait que dans ces manifs, tout le monde est d'accord avec autour d'une une revendication unique, c'est le retrait de cette contre-réforme.
Et qui est également, pour te dire, il est quand même un des porte-parole du mouvement des sans-papiers, Roland Diagne.
C'est aussi
il faut
un
le
des
dire,
quatre porte-parole du mouvement des sans-papiers. Et là, c'est pas n'importe qui là, qui s'est pris un coup de schlass dans la main. Ongle de l'index arraché quand même. Et puis ces insultes parfois appuyées, ça allait de mouton jusqu'à collabo en passant par enculé, bon qui est bizarre, c'est pas une insulte en soi, mais ça, c'est des choses là qui vont dans un sens qui nous interroge. Et ben il se trouve que justement oui, Massilia,
moi je voulais faire un point technique sur du coup le Bloc qui n'est pas une groupe
entité,
en soi,
ouais, bien sûr,
mais
ouais.
Une stratégie.
Exactement, oui. Et ben, oui, c'est bien que tu le dises, parce qu'il ne faut pas confondre les deux, et ça a émané de cette stratégie, de ce groupement de gens en noir, ces attaques.
Et qui n'est pas hétéroclite, finalement.
Ouais, voilà. Oui, parce que c'est vrai que le Bloc est
ils ont pas une carte d'adhésion
présent dans les manifestations en ce moment, et que on sait bien que toutes les caricatures qui consistent à les traiter ou bien de petits bourgeois ou autre chose, on se rate dès qu'on dit des trucs comme ça sur le Bloc.
Bien sûr, parce
Bloc,
qu'il y a plein de camarades
c'est
dedans.
Faux.
C'est essentiellement des jeunes prolos.
Et on en parlera dans ma chronique.
On en parlera tout à l'heure. Ah, ça y est,
un gros teasing de Massy là.
Alors il se trouve que une de ces personnes qui s'est montrée particulièrement agressive envers la camionnette de tête qui est tenue par la CGT, qui est le fer de lance de ces manifestations, et en nombre et en stratégie, ça semble évident pour quiconque participe à ces manifestations. Eh bien, une de ces personnes qui masquée à ce moment-là, mais on l'a reconnue par ses vêtements, était en train d'insulter donc la CGT. Une de ces personnes-là, bah, justement, c'est une personne qui quelques heures auparavant nous avions rencontré en train de discuter précisément avec un syndicaliste CGT. C'est le son qu'on vous propose pour voir quel est le discours derrière le masque de celui-là, en tout cas.
Si tu surtaxes moins, charges salariales. Ouais. Le salarié.
C'est pas des charges.
Non, mais
c'est pas des charges, c'est des cotisations.
Non, mais
déjà.
Le salarié gagne plus mécaniquement.
Non,
il va dépenser
non,
plus.
Non, tu te trompes. Écoute-moi juste deux minutes.
Vas-y.
Ok. Toi, tu parles de charges, c'est le discours des patrons et de l'État. Ils parlent de charges. C'est pas des charges. Si tu regardes la réalité, c'est ce qu'on appelle des cotisations. Ouais. Ces cotisations, elles te permettent d'être remboursé par la Sécu et d'avoir une retraite et quand tu es au chômage, de toucher du chômage. Le jour où on enlève ça, mécaniquement, tu auras plus sur ta fiche de paye, mais tu payeras l'hôpital, tu payeras le médecin, tu payeras des assurances. Mais si, et c'est ce que veut, et c'est ce que veut le patronat, c'est ce que veut le patronat. Hein. Là, tu viens d'exprimer un point de vue patronal.
Si je peux finir mon point de vue, tu baisses les charges patronales, justement. Les cotisations patronales.
Elles n'ont fait que baisser. Et les patronales, elles n'ont fait que baisser.
Sauf que tu vas ramener de l'emploi en France et les mecs qui vont travailler vont payer les impôts, ils vont consommer, et ils vont payer des cotisations.
C'est Macron qui dit ça. Je te promets, t'as le discours de Macron.
Non, du tout.
Écoute, vérifie, tu as le discours de Macron. Regarde, tu taperas sur Google.
Ça fait 15 ans que je dis ça.
Écoute, tu peux le dire depuis 15 ans. Tu tapes sur Google, baisse des charges patronales et tu regardes qui en parle. Et tu reviens me voir la prochaine fois. Regarde qui veut les faire baisser dans ce pays. C'est le MEDEF, c'est Macron et c'est Le Pen. C'est eux qui veulent le faire baisser. Pourquoi ? Parce que c'est du profit en plus. Pourquoi on est là ? C'est la réforme des retraites. Regarde.
Ouais, mais moi je suis au combat du mois de novembre 2018.
Aussi, ouais, mais attends, mais ouais,
d'accord. La hausse du pouvoir d'achat.
Et la hausse du pouvoir. Ouais, mais attends, il n'y a pas que les retraites. Quelles sont les propositions de la CGT sur les retraites ? C'est de maintenir le système actuel en l'améliorant. En l'améliorant comment ? En augmentant les salaires, en embauchant les chômeurs, en faisant un rattrapage pour que les femmes elles soient payées autant que les femmes, que les hommes. Oui, mais attends, derrière nous, parce que la CGT c'est vieux, et on n'est pas des bébêtes, on réfléchit. Et pour nous, le combat de la réforme contre cette réforme des retraites, c'est le combat pour l'augmentation des salaires, parce que les retraites, c'est du salaire, c'est de la cotisation, et c'est pas des charges. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce système, il soit cassé, pour ensuite, ça soit des assurances privées qui viennent nous proposer.
Les copains de Macron qui les font de pension américains, on est d'accord.
Oui, mais c'est ce que tu viens de proposer.
Non.
La baisse des charges patronales, c'est ça.
Du coup, t'as les entreprises qui se barrent.
Mais non, c'est pas pour ça.
Avec des grosses subventions d'État.
Ah, ça, c'est intéressant, les subventions d'État.
Et ça, l'État, il dit pas, écoute, t'as touché les subventions. Tu veux mettre ta clé sous la porte, je récupère l'outil de travail et j'emploie des personnes.
Là, on est d'accord là-dessus.
Parce que si t'as beaucoup de chômeurs, t'as énormément de dépenses. Et si tu crées du travail en France,
non.
T'as moins de chômeurs, t'as moins de dépenses, par contre, t'as beaucoup plus de rentrées d'argent.
Mais encore une fois, il y a des relents de discours bourgeois dans ce que tu dis. Parce que les grandes fortunes qui partent, les entreprises qui nous quittent parce qu'on serait trop cher, c'est le discours de Macron, c'est le discours de Le Pen, c'est le discours des patrons. Ah, bah c'est leur réalité.
Nous, moi, tu vas en Chine, tu vas travailler un gamin pour 2 euros par jour.
Et alors, tu veux travailler à 2 euros par jour ?
Mais non !
Ah bah alors !
Mais sauf que si tu surtaxes trop, forcément t'es pas compétitif.
Ah, ça c'est un discours d'un entrepreneur là. T'es chef d'entreprise.
J'ai été chef d'entreprise.
Ah bah ça se voit.
Mais depuis le mois de novembre, je suis dans la rue.
Mais comment faire revenir le boulot en France ? C'est pas la question de le faire. Attends. Pour qu'il y ait du boulot.
Arrête de
Attends. Pour qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait de la consommation.
Ouais, oui.
Et ben il faut augmenter les salaires. Ouais. Le jour où tu augmentes les salaires, les patrons ils vont pleurnicher, mais en attendant, comme tu vas consommer plus, il faudra produire plus. Et donc ils vont devoir embaucher. Mais pour l'instant, c'est pas leur logique. Leur logique, c'est d'organiser la pénurie, la surexploitation, pour dégager des profits financiers qui durent qu'un temps.
La fabrication vient bien de l'étranger, non ?
Oui, et alors ?
Et alors ? Après, c'est vendu à un prix fou en France.
Oui,
et ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent pas l'acheter.
Mais attends.
C'est pour ça, il faut fabriquer en France.
Mais attends, c'est pas la question de la France ou l'étranger. À l'étranger, ils ont les mêmes problèmes que nous, et ils se battent comme nous. Donc c'est pas la question, on va pas s'opposer.
Quand on a enlevé le Paul Leblanc, la filature à Lille, après quand on a mis au chômage.
Mais c'est un choix de qui ? Est-ce que c'est l'ouvrier chinois qui a choisi ça ?
Ah non, c'est la France qui a accepté déjà.
Non, c'est pas accepté. Ouais. C'est les patrons qui ont décidé de Mullier, par exemple. Il était dans le textile. Il a décidé de tout fermer pour refaire quoi ? De la grande distribution. Oui. On est d'accord. C'est une des premières fortunes de France. Il paye combien d'impôts ? Zéro.
Oui, mais
tu vois ? Et alors ? C'est là le problème. Mais le problème, c'est quand t'adoptes. Parce que tes patrons, petits patrons, t'adoptes le point de vue des grands patrons alors que t'as rien à voir avec eux.
Non, c'est que moi j'ai vu mon point de vue à moi en tant que petit patron.
Voilà.
Quand tu me dis t'as été patron, tu me laisses pas finir en disant oui, patron d'une petite structure.
Oui,
et ne serait-ce que mes charges
c'est
à moi.
Pas en 40, hein.
Mes charges à moi m'ont plombé ma société.
Mais c'est ça aussi dans le mouvement des gilets jaunes.
En auto-entreprise et en SARL.
Écoute, moi j'ai été chômeur.
Je suis maintenant.
Bah voilà. Et selon ce que tu vis, tu vois les choses d'une façon ou d'une autre. Selon l'endroit où tu te trouves, selon ce que tu fais, tu vois.
Avant que les... Quoi ?
quelconque actionnaire touche ne serait-ce qu'un centime. Les profits devraient être soumis à imposition. Et seulement.
Hey, tu sais, c'est quoi mon projet, camarade? Mon projet, c'est qu'une société où les profits ils reviennent à tout le monde et pas à des patrons. Moi, je suis contre même l'idée qu'il y a des patrons.
De sa société?
Non. Mais il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de salarié. Les gens, ils travaillent pour les besoins de la société. C'est ça, la CGT. Il n'y a pas des rapaces qui viennent prendre du profit, qui exploitent le travail des autres. Voilà, et ça, c'est possible. Mais ça demande des révolutions. Et une révolution, il faut être 100 fois ça. Il faut être 100 fois ça. Et il faut une bonne direction.
Vous n'arrivez pas à plus mobiliser, vous?
Parce qu'on a en face de nous des gens comme toi qui ont l'esprit, malheureusement, qui n'est pas encore suffisamment clair pour s'organiser. S'organiser dans une organisation.
J'étais à Béthune et je m'organise.
Oh, les camarades.
J'ai fait des manifs tant et plus. Et j'en ai organisé et ça c'est super.
Non, on se bouffe pas du tout.
Justement, on discute et c'est
bien, c'est très intéressant.
C'est très intéressant.
Merci, bonne manif.
Écoute, bonne manif et puis peut-être à tout à l'heure.
Ça marche.
J'ai fallu remettre les portes à l'heure et c'est bien.
Là tout de suite, Seb, ça me fait penser à des sons qu'on avait déjà diffusés il y a un an au début des Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui ont une espèce de discours de la petite droite commerçante, tu vois, trop de charge, tu vois, et qui en même temps sont déjà radicalisés parce qu'ils sont, ils ont, enfin, on le sent, le gars, il a l'air dégoûté, enfin, tu vois, on sent qu'il y a une violence, il faut qu'il l'exprime, mais ce que je comprends pas, c'est. Enfin, je suis peut-être naïf, je sais que le Black Bloc, c'est une stratégie, mais comment ce groupe s'autorégule et. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose? Enfin, je ne sais pas si nous, on ne peut rien faire, mais est-ce que le Black Bloc ne peut pas faire quelque chose?
Un des journalistes indépendants, alors d'après une de nos informations,
sources.
On n'est pas certain de cette information parce qu'on ne l'a pas vraiment sourcée ni vérifiée, mais il se pourrait que Antoine, donc ce journaliste indépendant qui a été frappé d'un pavé dans la tronche, ait reconnu son agresseur, mais qu'il ne soit pas le seul et que des membres du Bloc l'aient aussi fait. Qu'ils aient,
donc le groupe s'autorégule
et qu'ils aient peut-être un petit peu remis les points sur les i à l'agresseur en question.
Moi, j'ai juste un truc à dire là-dessus. C'est quand le type de la CGT parle d'organisation. Je trouve qu'il n'y a pas uniquement dans des organisations politiques et syndicales qu'on peut s'organiser. Donc le terme organisé est important, mais pas forcément la manière dont il est expliqué. Donc certes, cette personne, elle n'a peut-être pas le même bagage politique, la même manière de voir les choses, et elle n'a peut-être pas appris à apprivoiser le mouvement social comme nous, on a pu l'apprendre. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer de prendre ces personnes-là et de discuter avec elles pour changer?
C'est ce qui est fait là.
C'est ce qui est fait.
Clairement,
c'est ce qui est fait. Mais du coup, le terme organisation, il n'y a pas que les organisations syndicales.
Oui, et puis il faut rappeler, après on passe à autre chose, mais il faut rappeler que le Black Bloc, ce n'est pas que des gens comme ça. Non, il y a bien des sûr. Camarades et il y a des gens qu'on a déjà reçus ici qui sont extrêmement intéressants et qui luttent avec nous pour les mêmes raisons.
Ce qu'on voit, c'est que ce soit dans la stratégie ou dans la masse, c'est bien la CGT qui fait pour la part essentielle des manifestations auxquelles on participe toutes les semaines. Hein, Massilia?
Écoutez, calmez-vous.
Masqué et Maître Grims.
Oh yeah.
De retour parce qu'on revient. Et ainsi de suite. Y'a trop de trucs qui m'énervent sur Terre. Les chômeurs sans travail, les orphelins sans père. Plus rien ne tourneront et personne veut l'admettre. Et ça me vénère. Dis-leur, Maître.
Ça me vénère quand je marche en chaussettes dans la salle de bain. Et qu'il y a de l'eau partout, je fais ça tous les matins. Je tire mal mon rideau, qu'à des motifs indiens. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère.
Ok, Maître, je te comprends, mais je pensais pas à ça. Plus au problème de la jeunesse, tu vois les trucs comme ça. Tous les échecs scolaires, les familles déchirées. Ça me vénère, dis-leur, Maître, je peux plus respirer.
Ça me vénère quand je me cogne le doigt de pied sur le coin du lit.
Ok.
Quand je commande un cheesecake et qu'il n'y a pas de coulis.
D'accord.
Quand je repasse mes t-shirts et que je fais les plis. Oh, ça me vénère, oui, ça me
vénère. T'as raison, mais une fois de plus, c'est pas ce que je voulais dire. Genre les SDF sans toi qui ne savent pas où dormir. Ces jeunes qui vendent de la drogue et qui deviennent dealers. Allez frère, je compte sur toi, cette fois-ci, dealer.
Ça me vénère quand je conduis qu'un voyant que je connais pas, salut.
Non mais je voulais.
Dans tes vides d'Eliatique, de Maya, de la brume. Je souffle des bougies magiques et qu'elles s'allument. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère. Quand mes écouteurs sont tout emmêlés. Quand j'ai un Kinder, je sais pas construire le jouet.
Chiant.
Quand il fait chaud et que mes lunettes sont pleines de blé. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère.
D'accord, mais je vais recentrer un peu. Je vais parler des galères d'écran et des petits peu.
Ça me vénère. Quand j'ai du scotch, je trouve pas le bout du rouleau.
Mais non.
Quand quelqu'un range une bouteille vide dans le frigo. Quand je vais à Disney, que je vois pas dingo. Ça me vénère, oui, ça me vénère. Quand je fais des mots fléchés, qu'un mot rentre pas. Quand j'entends le refrain de la chanson Bella. Ah oui, mais non, c'est vrai que cette chanson, c'est moi. Oh, je me vénère, oui, je me vénère.
Y'a
y a beaucoup de trucs qui te vénèrent, Grims.
Moi, je suis vénère, super vénère.
Toi, ça. Puis tu chantes
le
fort.
Le palmacho, ça me vénère. Vous êtes de Radio Campus sur le 106,6. On est vénère. On est vénère ici à On passe au rouge. Vous le savez, jusqu'à 20h, on est vénère avec vous. Et on est vénère avec. On est en feu. On est en feu avec l'élargissement de la lutte.
Et avec un reportage exceptionnel sur le manif au flambeau vers la fin de l'émission d'ici un quart d'heure.
Ouais, vers 19h33, restez chez Bran avec nous, les kids, puisque là... Mais là, attention, là on est avec les avocats, hein, en parlant de dérive droitière, d'élargissement de la lutte, tout ça. On est avec les avocats.
C'était l'événement de la manifestation du vendredi 24, là, il y a
janvier.
Trois jours.
Ouais, ouais. Bien sûr. Et on va
ils étaient 250
ça,
ouais. Au final. Alors attention, on entendait des gens qui disent des nombres, mais au final, on a bien compté plus de 200 avocats qui participaient à cette manifestation.
En robe ?
En robe.
En robe, bien
et,
sûr.
Et d'ailleurs ces bien robes sûr. Qu'ils avaient jetées ouais. précédemment. Et du coup, ça fait l'objet d'une question un peu
oui,
limite, un peu sous la
c'est
ceinture.
Pour ça que je te disais ça, Seb, bien sûr. Allez, bâtonnier. On écoute ça tout de suite.
Bonjour, alors aujourd'hui vous avez un cortège du barreau de Lille en grève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les raisons de cette mobilisation ?
Notre mot d'ordre, comme tous ceux qui sont ici, c'est le retrait de la réforme des retraites. Il faut savoir que nous n'avons pas de régime spécial, mais un régime autonome, c'est-à-dire qui fonctionne depuis des années sans qu'on demande un centime à personne. Et on reverse 100 millions d'euros tous les ans aux régimes généraux. Et on voudrait aujourd'hui doubler notre taux de cotisation pour le faire passer de 14 à 28% et réduire notre pension de retraite alors que notre régime n'est pas déficitaire. Donc ça impliquerait, puisque de toute façon, ça ne serait que les petits cabinets qui seraient concernés, puisque de toute
jusqu'à
façon...
40 000
jusqu'à
euros,
40 000 euros.
Chiffre d'affaires annuel. Hein.
Voilà. Et ça impliquerait une fermeture. Par exemple, au barreau de Lille, il y a 618 avocats sur 1255 qui gagnent en dessous du plafond annuel de sécurité sociale, donc ça impliquerait la fermeture de plus d'un tiers des cabinets lillois.
Tout à l'heure, il y a une avocate qui m'a posé la question qu'est-ce que ça fait le gaz ?
Toi, t'es à la CGT, donc...
Ouais, je lui dis, moi, je suis un petit peu habitué, donc elle me voit, elle me dit, ouais, est-ce que t'es habitué aux manifestations ? Je lui dis oui, et c'est de là qu'elle m'a demandé qu'est-ce que ça faisait les gaz que la police envoyait sur les manifestations.
Il y avait d'autres revendications, ça va pas si bien que ça dans la justice française.
Non, ça va pas du tout.
Non, ça va pas du tout. Le problème, c'est qu'on n'est pas entendu. On n'est pas entendu, que ce soit nous, que ce soit nos concitoyens. Et on peut pas laisser, en tant qu'avocat, on fait ce métier, il y a une vocation à ce métier. On le fait pour défendre les libertés, pour défendre les droits. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on est nous-mêmes plus entendus, qu'on ne nous entend pas, qu'on a les mains sur les oreilles et qu'on nous laisse crier dans la rue comme ça, et qu'on méprise tous ces gens qui sont là en train de crier depuis des mois, des semaines qu'on ne les entend pas, on se doit en tant qu'avocat de les protéger
et, la
les
parole aussi.
Et de les aider justement à porter cette parole.
Vous jetez vos robes parfois, mais pourtant vous en avez là, vous avez un stock de robes quelque part.
Absolument pas.
Comment ça se passe au niveau garde-robe chez les
on
avocats
on les récupère après.
On plaide à poil. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette réforme des retraites au-delà ne concerne pas que les avocats, mais surtout le justicier. Le justiciable qui aujourd'hui a accès à une défense grâce à l'aide juridictionnelle ou à des honoraires qui sont adaptés à sa situation financière, c'est parce qu'il y a des petits cabinets qui sont aujourd'hui accessibles. C'est ces petits cabinets-là qui vont être amenés à disparaître. L'accès à une défense sera très limité de ce fait à l'avenir.
Bonjour. Un petit mot pour Radio Campus.
Oui.
Vous venez de respirer l'air frais de la place de la République, hein ?
Ah, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai pas eu cette chance de respirer l'air frais, la Crimée, non. C'est
non,
pas.
Non.
J'ai pas eu cette chance-là. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui l'ont été, à ce que je vois, mais il y avait pas mal de black box tout le long du cortège. Il y a la préfecture qui a décidé d'autorité de modifier le parcours, sans préciser quoi que ce soit, qui que ce soit. Donc, résultat, ça entraîne aussi ces mouvements de foule et les risques de violence, ils sont inhérents et d'une certaine manière, l'État est parfaitement complice, si ce n'est finalement le seul responsable de ça. Donc voilà,
on en pique encore un peu les yeux là quand même sur cette place de République. C'est la première fois que vous...
Non, première fois que je respire ça, oui. Lundi, je me suis retrouvé placé en garde à vue à Dunkerque, mais en dehors de ça...
Ah bon, qu'est-ce que vous aviez fait ?
Rien du tout.
Rien du tout.
J'étais à côté de manifestants, c'est tout.
Vous êtes un avocat, on a le droit de mettre les avocats en prison.
Bien évidemment, on est des citoyens comme les autres. Hein. Je me suis retrouvé placé en garde à vue parce que j'étais à côté de manifestants qui avaient bloqué l'autoroute. Et donc, sur ordre de Monsieur Papineau, semble-t-il, à ce que j'ai cru comprendre, je me suis retrouvé placé en garde à vue avec cette autre personne. Et la garde à vue a été levée à la demande du procureur de la République. Et ils ont levé les gardes à vue pour tout le monde parce qu'elles étaient irrégulières. Mais ils savent très bien qu'elles le sont, irrégulières. Et ils le font tout simplement pour casser les mouvements et foutre les personnes une pression supplémentaire et essayer de les désengager de ces mouvements sociaux qui sont à mon avis nécessaires et importants, quoi. Voilà où on en est.
Allez, tout à l'heure, on retrouvera la retraite au flambeau, un reportage de Seb. Mais juste avant, j'aimerais qu'on rejoigne Vincent, un gilet jaune de la première heure qu'on avait déjà interviewé.
Un urgentiste, CGT, ouais. Gilet jaune, il a tout, lui.
Et là, il fait un petit point de situation, un point d'étape. C'était le 24 janvier.
L'assurance chômage, bon, c'est des chômeurs, hein, voilà, c'est normal. Les assistés.
C'est comme une lettre à la poste.
Voilà. Oui, mais c'est des assistés. Là, c'est les vieux. Bon, les vieux, hein, ils font déjà chier avec la dépendance. J'ai adoré hein, la truc de Berger, là, expliquant qu'il fallait plutôt mettre l'argent sur la dépendance. Mais mon con, la dépendance, c'est l'assurance maladie. Là, on parle de la retraite. Et s'ils n'ont pas une retraite, ils seront encore plus dépendants. Enfin, il n'a rien compris. Mais c'est clair que là, s'il arrive à passer, il a fait son mandat. On va nous l'imposer, comme d'habitude, au deuxième tour parce qu'il ne faudra pas voter face à la méchante en face et puis on va se retrouver avec une attaque de l'assurance maladie au prochain mandat. C'est évident, c'est évident.
Après, s'il ne passe pas au second tour et s'il y a quelqu'un d'autre en face d'une
c'est
gauche...
C'est ce qu'il faut travailler, il faut leur expliquer. Mais il faut expliquer beaucoup de choses. Bon, moi je suis dans la santé. Il faut leur expliquer aux gens que le système privé, ce n'est pas celui qu'ils connaissaient il y a 10 ans. Parce que tu vois, les gens leur expliquent en gros que c'est l'hôpital, ben, l'hôpital, c'est des gens foutres, etc. Mais qu'on va les envoyer dans un service privé, et ils imaginent ce que c'est le privé il y a 10 ans, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le privé il appartient à des groupes financiers, et il y a une transformation majeure qui est en train de s'opérer. C'est pas le privé des cliniques d'il y a 10 ans qui appartenait aux médecins ou aux professionnels de santé, c'est des usines à soins. Alors avec un bel emballage, avec de la com, avec de la pub, avec le gadget, mais fondamentalement, c'est des usines à soins pour faire du fric, quoi. C'est pas du tout le privé d'il y a 10 ans. Ça va falloir que les gens comprennent. Ça va être dur.
Les gens, comment ils vont faire avec des petits trucs? Ils ne pourront pas se payer les EHPAD.
Mais non, ils ne pourront pas, bien sûr.
Et du coup, ils vont aller où? Ils vont faire quoi? Ils vont se retrouver au 19e siècle chez leurs enfants?
Bah, y a deux solutions. Soit, effectivement, on va prendre l'argent sur leurs propres biens, c'est-à-dire ce qu'ils ont économisé. Ils ne pourront pas le prendre, mais ça, c'est prévu déjà dans la loi. On peut aller prendre l'argent. Mais ils prendront aussi l'argent chez les enfants. C'est-à-dire que les enfants qu'on est en train de précariser pour avoir plein de méthodes, ils vont devoir assumer les frais. Aujourd'hui, une EHPAD, on va dire, allez, on est à 1800 ici, 1500 balles par mois. Il y a plein de régions où on a 2000, 2500 balles par mois. Mais qui a 2500 balles de retraite? Là, je regardais un collègue infirmier hospitalier, il vient de partir. Il lui manque une connerie de trimestre. Il a fait grève, parce que les grèves, ça enlève des trimestres. Et il se retrouve avec 1550 euros. Il n'a pas de quoi faire une EHPAD. Donc, si jamais il est en dépendance, c'est ses gosses qui vont payer ou on va lui prendre ses biens. Et je ne suis pas sûr que les gens l'ont compris, ça. Je ne suis pas sûr. Il faut que les gens maintenant arrêtent de se plaindre des grèves et qu'ils se mettent dans la rue avec les gens et en 3 jours c'est plié. En 3 jours c'est plié. Si tout le monde se met, y compris le secteur privé, dans l'eau, c'est gagné. C'est gagné. Sinon ça va être dur. Ça va être dur. Mais j'y crois encore. J'ouvre les frigos à l'occasion, tu vois. Je vais voir ce qu'il y a dans les frigos.
Dans les frigos de...
Des gens, des patients. Ah, oui, c'est terrible.
Quand tu rentres dans les maisons en tant que membre du SAMU.
En tant que urgentiste, oui, tout à fait.
Urgentiste.
Ça fait 5-6 ans qu'on voit quelque chose de très concret. Il n'y a plus la même chose dans les frigos. Donc le vrai gap, il est là. C'est qu'il y a des gens qui tiennent encore à leur peu. Donc ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Mais les gens qui étaient dans la rue, dans les ronds-points, etc., sont des gens qui ont la dalle. Ils ont faim maintenant. Et franchement, qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Des gens la dalle.
C'est des travailleurs pauvres.
Oui, c'est des travailleurs pauvres. C'est effectivement pas que des assistés, ça me fait plaisir que tu le dises. Il n'y a pas que des assistés, il y a des gens qui travaillent mais qu'on a précarisé, même dans la fonction publique. Il y a des gens à qui on a imposé des temps partiels tout en les faisant travailler temps plein mais on ne leur paye pas leurs heures sup, on met ça sur des comptes et tout, et qui sont aujourd'hui dans la précarité et qui ont la dalle, qui ont du mal à boucler les fins de mois.
Mais entre nous, pourquoi est-ce que vous, les urgentistes, vous ouvrez les frigos? Vous profitez de la faiblesse des patients pour pouvoir bouffer un peu sur votre dos, parce que vous êtes mal payé vous-même, quoi. Vous
non,
c'est sur la bête.
C'est à l'occasion de raison X ou Y, quand il faut donner tel médicament qu'on préfère le donner à air fraîche, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais on voit les intérieurs deviennent tristes, quoi. On sent que les gens ont de moins en moins de choses, mais de choses vitales, vitales, vitales. Ce qui les tient, c'est encore le service public qui leur permet de vivre à peu près dignement, quoi. Donc si on les tue, on va se retrouver avec une frange en extrême pauvreté, quoi. En extrême pauvreté.
Pourquoi considère-t-on que des gens qui se mettent dans une lutte comme celle-là ne valent même pas le salut, le respect qu'il aurait dû? Pères et mères de famille qui êtes ici et qui portez sur votre dos quelque chose qui dépasse votre profession. Ça a été dit il y a un instant, mais moi, je veux le redire avec les mots d'un homme politique. Les systèmes de retraite, les régimes spéciaux ne sont pas des faveurs, ne sont pas des privilèges. Ce sont en toute hypothèse le résultat de luttes sociales. Les retraites sont payées par les cotisations des travailleurs, pas par une faveur quelconque. Personne ne leur fait l'aumône. La retraite, c'est comme un salaire différé. Depuis que le monde du travail existe, on a voulu raccourcir le temps de travail. Parce que la machine doit prendre le relais. Parce que la peine de l'être humain doit être soulagée. Dans la semaine, dans la journée, et dans la vie, et dans la vie. La réduction du temps de travail, la réduction du temps de travail est consubstantielle à la classe salariée. Parce que la classe salariée est la seule qui produit toutes les richesses qui sont si mal réparties aujourd'hui. Et elle a droit, et elle a droit à la part qui lui revient, parce que c'est elle qui l'a produite. Les retraites en France, ça représente 300 milliards d'euros. Ils veulent en faire un capital à placer dans les fonds de pension. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. La première fois dans notre histoire, une loi avec des trous. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. C'est un attentat, un coup de force. Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. Où est la démocratie dans un cadre comme celui-là? Par conséquent, non, c'est non, non, c'est non. C'est un attentat, un coup de force.
Ralette Fric, non, c'est non.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
Mais est-ce que oui, c'est oui?
Mais est-ce que oui, c'est oui? Mais il est 33. Il est 33.
Un débat sur le consentement lancé par Massilia dans ce studio.
Il est 19h33, c'est l'heure du reportage de Seb. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé, Seb? Alors, jeudi? Oh non, Massy peut-être.
Et ouais, il y a eu une.
C'est le vendredi 23 janvier.
Jeudi 23.
Jeudi. Et il y a eu une marche au flambeau. Donc, marche dont le parcours, enfin, la préfecture a interdit le passage par le centre-ville et également interdit le feu.
Comme
mais moi, personnellement,
ils ont interdit le feu.
Mais
ils ont autorisé la roue. C'est la première fois que. Mais c'est incroyable hein, ce qui se passe.
Bientôt l'écriture.
L'écriture va arriver. Ça, c'est la semaine prochaine. C'est énorme ce qui se passe avec
la
préfecture. La civilisation, vas-y, lâche un peu.
Mais vas-y, Massy, que se passe-t-il? Que se passe-t-il jeudi?
Eh bien, il se passe qu'on allume quand même le feu.
Eh ben, c'est énorme.
Mais qu'on passe par des quartiers populaires et c'était une marche qui, ma foi, était très intéressante.
On commence avec Pierrette et Virginie.
Ah, c'est sûr qu'il va pas ce clin. Il m'envoie des trucs, il dit. Faut venir à Seclin et dit que ici on peut pas manifester sans notre vie. Non, elle partira à Seclin, heureusement. Virginie Elrotte, elle est en pétard. Oh, qu'est-ce que t'en fais et tout, on va aller.
Parce que là, on est porte de Paris ce jeudi 24 et c'est pour la retraite au flambeau, mais.
Ah oui, mais Seclin aussi.
Mais il n'y a pas de flambeau.
Tu n'as pas le droit, non.
Tu vois des flambeaux, toi?
Bah non, on a trouvé chaud.
Ah, t'en as un? Bah, c'est un flambeau électrique.
Bah ouais, on n'a pas
le
choix.
On va mettre le feu à Lille. Bah non, ça fait de la fabrication.
Avec une LED.
Avec une LED.
Une LED. On va brûler Porte de Paris avec une LED.
Ils ont des idées, ils ont fait des fabrications maison, pas mal. Hein.
Si Papinou nous dit éteignez votre bougie, ça va être compliqué, on peut pas la souffler. Hein, désolé.
Vous êtes d'accord, on voit aucun flambeau. Pourquoi s'il n'y en a pas?
Vous pouvez l'expliquer pour nous.
Pourquoi pas? Ils craignent qu'on va mettre le feu. Hein. Pas la baraque.
C'est le préfet qui vous l'a interdit.
On va faire le bordel dans la roulotte.
Bien,
J'ai vu un sondage dont personne ne parle, sondage Elab BFM TV, qui dit que malgré tout le mal qu'on dit des grévistes, des cheminots en particulier, mais pas que, eh ben, il y a 61% des citoyens sondés qui approuvent la contestation et qui sont pour le retrait du projet. Voilà. Alors du coup, j'ai écrit à Édouard Philippe, Édouard Philippe, j'ai bien pas Louis-Philippe, et j'ai dit que lorsqu'il prononce une diatribe à la télévision contre les coupeurs de courant et qu'il invoque la démocratie, eh bien, la démocratie, je crois qu'il s'assied dessus en permanence. Et il ferait bien de sortir de sa tour d'ivoire pour écouter les citoyens qui lui demandent de tout remettre à plat et de discuter vraiment sur le fond des retraites.
Je suis avec Lydie dans la manif du jeudi 24 au soir. La retraite au flambeau, mais t'as pas de flambeau, Lydie?
Non, parce que en fait, je voulais amener ma petite lampe de vélo, mais je l'ai oubliée à la maison. J'ai privilégié mon badge pour voir que je suis à la CGT. Voilà.
On n'a pas le droit au flambeau.
Pourquoi?
Je sais pas. Une décision du préfet.
Donc les mains vides, quoi.
Bah voilà.
Mais est-ce qu'il y a des flambeaux dans les camionnettes là?
Je sais pas.
Ça m'intéresse.
J'en sais rien. J'en sais rien.
Bon Lydie, tu veux pas avoir un petit service, quoi? Ce que j'aimerais, c'est que tu ailles voir à l'arrière de la camionnette de la CGT pour voir s'il y a des flambeaux en stock.
Des flambeaux?
Ouais.
Ouais. J'aimerais bien. À l'arrière de la camionnette, là pour l'instant, je peux pas voir grand chose.
Essaye de t'approcher, quoi.
Ouais.
Des indices, je ne sais pas.
Moi je vois des. Je vois
sur tes talents d'enquêtrice.
Je vois des drapeaux. Pour l'instant, je vois rien.
Lydie, regarde, il y a un trou là.
Déjà,
peut-être t'infiltrer pour explorer plus avant.
Il y a du sang.
En fait, on fait une enquête pour savoir s'il y a des flambeaux à l'arrière des camionnettes. Comme toi, tu es secrétaire de l'UL de Tourcoing, tu peux peut-être nous donner quelques indices.
Non,
Est-ce que vous avez quelques flambeaux?
Nous respectons la loi. Le seul flambeau lumineux que nous portons, c'est l'égalité. Hein, entre tous les travailleurs, les hommes. Hein.
Tu te rends compte que c'est une des rares villes en France où vous n'allez pas faire de flambeaux? Dans les autres, partout, il y en a un. En ce moment.
C'est populaire, ça. Ben, nous, Lille, c'est interdit. On nous a interdit.
Ouais.
Le préfet, bon, il faut croire qu'on a un traitement de faveur.
Bah, je pense que c'est très beau là ce qui se passe. En tant que gilet jaune, ça fait un bon moment qu'on attendait la convergence des luttes. Et depuis le 5, une dynamique s'est créée. Et aujourd'hui, je pense que vraiment tout le monde a pris conscience que cette réforme était vraiment une catastrophe sociale, une catastrophe politique et une catastrophe sociétale. Et là, j'ai le sentiment que tout le monde l'a pris conscience. La légitimité et la légalité, c'est pas la même chose. Et il y a un moment donné, dans une crise sociale, c'est la légitimité qui l'emporte. Et elle se trouve au niveau du peuple, en fait.
Alors Lydie, t'en es où de ton enquête?
Il y a des canettes de coca, il y a la jupie, mais moi je vois pas de flambeau pour l'instant. Voilà.
Peut-être interviewer discrètement l'homme qui est derrière le bar.
Ouais, je vais discrètement.
Allez, compte sur toi, vas-y.
Avec ma voix. Je cherche les flambeaux en fait.
Bon courage pour chercher les flambeaux.
Voilà. Donc, alors mais t'as pas un indice, un jeu de piste, voilà. On veut chercher.
Ouais. Là dans la boîte là-bas, c'est pas des flambeaux.
Non. Pas aujourd'hui.
Mais il n'y a pas de flambeaux.
Bah,
partout ailleurs en France, il y a des flambeaux.
Bah, ils n'ont pas le préfet Lalande qui fait de beaux arrêtés préfectoraux et qui dit que grosso modo, ça risque de créer des problèmes parce qu'il y a peut-être des enfants, des mineurs qui pourraient être exposés. Il explique aussi que vu qu'il y a déjà eu un peu de soucis dans les manifs, on ne sait jamais. Là, ce tarif-là, ils interdisent tout et n'importe quoi. Mais voilà. Après, il n'y en a pas, il y a du monde, c'est cool. C'est dommage que les gens ne soient pas munis chacun de leurs petits flambeaux et que. Voilà quoi, faut pas toujours se reposer sur les grosses orgas comme la CGT.
Est-ce qu'il y a des flambeaux à l'arrière des camionnettes de la CGT?
C'est les flics. C'est un peu la question que je me pose, quoi. Mais je pense que les flics se posent la même question. Ouais, tu le verras toi-même.
On est toujours dans la manif, mais là j'ai vu plein de gens distribuer des flambeaux. Là, tout à coup autour de nous, il y a une grosse quantité de flambeaux gris qui sont apparus dans les mains. On va voir ce que ça donne. T'as vu ça?
Passez, faites passer!
Distribuez quoi là?
Des flambeaux! Que le préfet nous a interdit, mais on l'emmerde! Flambeaux!
Vous avez un flambeau dans les mains, monsieur, c'est interdit.
Mais est-ce que le préfet, la préfecture passe son temps à nous interdire des choses? Et puis, comme le disait le préfet de police de Paris, on n'est pas dans le même camp. Donc, vu que ces gens-là ont un camp, nous on décide de braver ce que nous disent. Avec les professeurs des universités, les professeurs du secondaire, les ports qui commencent à se mobiliser, l'électricité, il ne faut pas attendre demain que ce soit éteint pour se mobiliser. Là, on passe ici.
Ça y est, on voit des flambeaux s'allumer dans cette manifestation. T'es blessé?
Oui, je me suis cramé la main, je me suis pris une grenade.
Ah ouais?
La semaine dernière, ouais. Bah en gros, je courais en fait, et la grenade est arrivée, elle a tapé le mur, et en fait les 5 palais de la Crémolet, ils sont arrivés dessus, en me protégeant, bah, je me suis brûlé la main gauche. Deuxième degré, entre le deuxième et le troisième degré, assez grave, entre 10 à 3 mois de récupération, j'aime beaucoup.
Tu étais sans doute en train de provoquer la police?
Non, même pas, il y avait un mouvement de foule, j'étais même pas devant.
Et ça calme pour la lutte?
Non, que dalle. Enfin moi en tout cas, que dalle.
Je trouve que c'est une très bonne idée, ces flambeaux, c'est une très bonne idée.
Qu'est-ce que vous voyez là, vous pouvez décrire pour nos auditeurs?
Eh ben une sono magnifique, une bonne ambiance. Une manif, bon enfant et déterminé.
Et puis une centaine de flambeaux maintenant.
Ouais, ça commence à flamber, c'est pas mal.
Pourquoi vous êtes venu vous ce soir, monsieur?
Le retrait. L'objectif, c'est ça?
Si Macron croit qu'on va lâcher, il se met le doigt dans l'œil. Et que donc le combat continue, hein, jusqu'à ce qu'il y ait le retrait là. Et que de toute façon, l'arrogance et le mépris qu'il affiche de plus en plus vis-à-vis effectivement du mouvement populaire, ça, c'est un élément qui va devoir effectivement payer sur tous les ports. Voilà.
Combien de jours de grève pour vous?
Moi, ça fait 2 semaines, au total. Troisième semaine de grève. Et bon, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ne sont pas encore dedans, et notamment les profs?
Mais qu'il est grand temps de s'y mettre, parce qu'effectivement, une des conditions fondamentales de la victoire, c'est notre capacité à réaliser tous ensemble. Quoi. À savoir effectivement que tout le monde prend sa part dans ce mouvement-là, dans ce formidable mouvement, qui annonce encore des mouvements encore plus importants, hein, ça c'est clair. Face à un gouvernement libéral et qui n'a pour d'autres stratégies que d'organiser une sorte de face-à-face électoraliste avec effectivement les forces fascistes de ce pays-là, en prenant en fait les populations pour des bénés, là je pense que c'est complètement se tromper sur effectivement la cible de ce point de vue. Quoi.
Et tous ensemble, tous ensemble! Et tous ensemble, tous ensemble! Manifestants du soir, bonsoir! Alors comme vous l'avez remarqué, une nouvelle fois, le préfet que nous appellerons désormais Ubu, en référence à la célèbre pièce Uburois, nous interdit le centre-ville. C'est une retraite en flambeaux, il nous interdit également les flambeaux. Alors, pour la prochaine fois, dans l'agenda du préfet, il est prévu que vous ne pourrez pas porter de gilet rouge, que vous ne pouvez pas porter de lunettes, que les gens qui chaussent du 42 ne sont pas invités. Enfin voilà.
Ah oh merde, je vais rentrer chez moi.
Je pense que la meilleure réponse à apporter à cette préfecture ubuesque, à ce gouvernement qui n'entend rien, c'est de maintenir la lutte, oui, et ce soir de faire une manifestation nocturne, joyeuse, en dansant, en chantant dans les quartiers populaires et en riant bien fort de monsieur Ubu préfet. Allez, on rit!
Le préfet Lalande nous fout les glandes. Tous ensemble, on fait un maximum de bruit. Encore plus de bruit. C'est pas le patronat qui fait la loi. La vraie démocratie, elle
est ici. Voilà, on est là pour les retraites, mais on n'est pas là pour les retraites. Hein. Il y a tout, hein. Il y a le pouvoir d'achat, c'est soi-disant 17 milliards d'euros qui a été débloqué pour nous, mais en fait il met en prime d'activité qui sert strictement rien à notre retraite. Là il nous passe une réforme assassine pour les retraites, ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt en fait, et en gros on oublie toutes les revendications des gilets jaunes qu'il y avait auparavant, alors qu'il y en a tellement. En gros tout ce qu'on veut c'est dégager ce gouvernement. Pas que LR, enfin, principalement LREM et LR, mais évidemment la refonte du système, parce que ce système il est vraiment pourri. Tout pour les riches, rien pour les travailleurs. C'est une honte. Et pour les handicapés aussi. Ils font rien pour les handicapés. Je trouve ça inadmissible.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui sont pas encore en grève?
C'est des lâches. Rejoignez-nous. Ouais, des lâches, faut rester correct, en espérant qu'ils nous rejoignent. Sinon, on va finir par les traiter, quoi. Parce qu'il y en a ras-le-bol, c'est toujours les mêmes.
Parce qu'on fait pas ça pour nous, on fait ça pour tout le monde. Donc c'est pas logique que les gens ils nous regardent et qu'il y a des gens qui font grève, qui travaillent, qui font grève, qui perdent du pognon, et que les gens en réalité ils nous rejoignent pas. Si on obtient gain de cause, et ben tous ceux qui n'ont pas bougé leur cul, qui n'ont pas osé prendre le moindre risque ou osé perdre une journée de travail, et ben ils auront les mêmes acquis.
Qu'est-ce qu'on voit là-bas là?
Ben on voit le cordon de police. Alors je pensais que le préfet avait interdit les torches, mais eux ils ont allumé des torches pour éclairer la manifestation.
Oui, on voit que c'est des projecteurs très puissants là qui éclairent la manifestation et qui nous éblouissent.
Voilà, ben on... C'est des situations que j'ai vues dans des films en temps de guerre. Donc c'est assez surprenant de voir ça à Lille et en France. Et avec des jeunes autour qui sont quand même, qui pourraient être nos enfants et leurs enfants. C'est surréaliste cette situation, avec des gyrophares et puis des projecteurs devant.
Pour l'instant, les forces de l'ordre ne vous ont pas vraiment empêché d'allumer les flambeaux.
Non, et en même temps, ils n'avaient pas trop le choix. Parce que ça se passe bien, on voit pas pourquoi le préfet a interdit ces flambeaux. J'espère qu'il prendra la même mesure lors du 14 juillet.
Il s'est passé quelque chose là. Il y avait le truc un peu d'agrégation des gens. T'as vu un peu comment ça s'est. C'est marrant parce qu'on avait l'impression qu'en fait, t'as envie de rejoindre une marche comme ça en fait, avec les gens, avec les flambeaux, etc. Et du coup, on est parti peu nombreux et progressivement, les gens se sont ralliés un peu à ça, avec l'envie et le plaisir aussi de marcher ensemble. Et voilà, ça posait. Tout ça nous fait réfléchir sur nos modes aussi de manifester, le côté festif, les chants, la lumière, la nuit, la transgression aussi, peut-être un peu par rapport à ce truc préfectoral. Donc, c'est un chouette moment.
Je suis avec Jean-Paul Delesco, secrétaire de l'Union départementale de la CGT du Nord. Ce type d'action, c'est inhabituel.
Ouais, c'est inhabituel, mais super intéressant le soir, comme ça, dans les quartiers populaires. Finalement, la Lande, il veut pas le centre-ville, mais il nous fait un beau cadeau des quartiers populaires. Et là où on est bien, et là où on se sent bien. En plus, avec les flambeaux, ça avait vraiment de la gueule le soir comme ça. On revit, on montre que le camp progressiste est présent et qu'on a besoin de tenir jusqu'au retrait.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ne sont pas encore en grève?
Bah, de nous rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, la réforme, elle va toucher l'ensemble du salarié. Et les salariés qui ont la tête dans le guidon, qui sont dans les petites PME, qui se disent, bah, je peux pas faire grève ou je sais pas comment faire grève, venez nous rejoindre, resserrez les rangs, parce que tous les salariés vont être tributaires de la réforme de Macron.
Le préfet la langue.
Du bien de pas obéir aux ordres.
Ça symbole de quoi là ce flambeau? Ça représente quoi?
La liberté et la démocratie. Parce que la France en ce moment elle est plus en démocratie, on n'est plus en démocratie. Là.
avec le président qu'on a.
Et si ça continue.
Alors c'est pas tout à fait vrai ouais. Finalement ce qu'on a passé là, parce que notre petite enquête a été résolue dès le début.
On se croirait dans un mauvais Scooby-Doo.
Oui, c'est vrai. À 16 ans, on enlève le
puisque
masque.
Puisque c'était dans la camionnette.
C'était
de
le
la
patron du parc immobilier, comme d'habitude, oui, comme d'habitude. Le monstre.
Mais non, la CGT avait bien les flambeaux.
Non, la CGT, pas la CGT, en tout cas, à l'arrière d'une camionnette, avec grâce à Pierrette, on entend ça.
Je ferme tout parce qu'on a les flambeaux derrière.
Et vous avez des flambeaux dans la camionnette là?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Il n'y a personne qui va me les prendre. Propriété privée, si tu rentres pas.
Ah oui, mais il était prévu une distribution ou une vente au profit de la caisse de grève?
Oui, c'est ça.
Vous allez faire quand même malgré
l'interdiction? Je sais pas, on verra bien.
D'accord.
On sait pas. C'est la surprise du chef.
On a eu la surprise, les flambeaux ont effectivement flambé à Lille ce jeudi 23 janvier 2020.
On passe au rouge chaque lundi de 19h à 20h sur Radio Campus en 6,6. Alors prochaine manif, c'est mercredi 29 janvier bien sûr, et puis par contre, oui c'est vrai que le préfet Lalande interdit les flambeaux, mais finalement ça brûle quand même, et puis pourquoi lui il interdit et pourquoi ailleurs c'est pas interdit, enfin bon, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Massy, ça va bientôt être à toi, mais
oui.
Juste le temps de faire un signe à Seb.
Merci pour ce signe. Vas-y, refais-le un peu.
Non, tiens, c'est
un
très radiophonique, vas-y.
Merci.
Massilia revient dans la partie.
Pardon.
Oups, alors,
c'est la suite.
Moi aujourd'hui, je reviens avec une chronique indirecte sur le mouvement direct. Social. Je vais débuter par une question. Seb, gros dada, qui est-ce que vous croisez dans les manifestations et sur les piquets de grève?
Des prolos.
Ouais.
Essentiellement.
Des syndicalistes.
Oui.
Des partis politiques.
Des adultes.
Des étudiants.
Oui, oui, c'est la CGT essentiellement, hein, presque tout le temps. Et puis Sud aussi, un peu FO, des hommes surtout, et aussi des femmes.
Et de c'est vrai.
De 30 à 50 balais, quoi, en fait. Des travailleurs pour l'ensemble.
Alors,
c'est beau ce que tu dis.
On croise et on voit vraiment différentes personnes. Puis c'est ça aussi qui est intéressant avec la réforme des retraites. Depuis que je m'intéresse aux mouvements sociaux et que j'y participe, j'ai rarement vu autant de tranches d'âge différentes, de professions différentes. Par exemple, les profs avec les cheminots, avec les avocats. J'ai jamais vu non plus autant de personnes avec des idéologies politiques aussi différentes travailler ensemble, marcher ensemble. Les manifs sont un peu devenues pour moi une pause dans le temps. Un moment où ma prof d'anthropologie devient une camarade de lutte. Un moment où je peux parler avec un avocat sans que je sois au tribunal ou en garde à vue.
Wow.
C'est quand même incroyable. C'est aussi un moment où, grâce notamment à la Radio Campus, on peut poser les mêmes questions à un gilet jaune, un syndicaliste, un salarié du privé ou du public. Les mêmes questions aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux. Au final, nous sommes un agrégat, une masse de personnes révoltées, soif de victoire et pour le désir d'une meilleure société.
Oh.
Du coup, vient ma deuxième question. Qu'est-ce qui, selon vous, Seb, gros dada, il faut pour qu'un mouvement social fonctionne et qu'il mène à la victoire? Parce que le but est quand même de lutter contre cette réforme des retraites qui est une vaste blague et qui, en fait, impulse la destruction de nos services publics.
C'est beau.
Il faudrait l'union entre la CGTU et la CGT. Merde, c'est déjà fait. Il faudrait l'abolition de la CFDT et puis que les gens de chez FO et chez Sud se réveillent.
Un peu de violence aussi.
En effet, un syndicalisme uni et puis une offre politique unie, elle aussi, autour de ce qui semble être évident aujourd'hui sur le plan programmatique et en termes de force politique, c'est-à-dire la France insoumise.
Oula, non, moi par contre, pas tout à fait d'accord.
Ça grimace dans le studio.
Oula, non, ouais, proposes... mais vas-y, Massy.
Pas d'accord, alors... mais tu proposes quoi d'autre?
Non, mais on va laisser faire le Black Bloc.
Voilà.
Moi, j'étais dans l'idée de l'organisation de l'unité, du soutien et d'un dialogue, mais bon. Donc, si
oula,
on avance...
mais t'es catholique, toi?
Un petit peu.
Non. Ah, très bien, oui.
Parce que l'idée, c'est que si on n'avance pas ensemble, on n'avance pas, en fait. La grève, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin que tous les corps de métier, que les jeunes, les vieux, les syndicalistes, les hommes, les femmes, les politiques, tous travaillent ensemble dans cette lutte.
Ah oui, c'est vrai.
On a fait de grandes distinctions aujourd'hui, et on l'a bien vu cette semaine, les organisations syndicales et politiques doivent s'organiser avec ceux qui ne sont ni dans un parti, ni dans un syndicat. Et cela même ceux qui rejettent ce genre d'organisation, voire même l'idée d'organisation. On parle beaucoup des autonomes, qui peuvent se présenter en manif, par exemple, sous forme de cortège de tête ou d'un bloc. Et du coup, point technique.
Point technique.
Point technique.
Point technique, merci.
Le Black Bloc, et je technique. Le rappelle. Le Black Bloc, et je le rappelle, une stratégie de manifestation de et non un groupe prédéfini.
Mais tu l'as dit en début d'émission.
Je sais, je le répète.
Ouais, très bien.
La question suivante, et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des tensions. J'ai un point de vue et une réponse à apporter à ça. Hein. Mais d'abord, Seb, gros dada.
C'est parce qu'on
en
s'écoute
phrase,
pas. On s'écoute
pour
pas.
Vous, pourquoi il y a des questions et comment
on s'écoute pas, on se lance des trucs.
Pourquoi il y a des.
Comme
des...
là tout de suite quand je parle. Pourquoi... Vous m'écoutez
pas. Ah,
pourquoi il y a des tensions. Oui, oulala, je ne sais pas.
Il y a des tensions parce qu'il y a les électriciens dans le coup.
Peut-être parce que le bloc ferait un peu de ménage, il y aurait moins de tensions, enfin, avec un peu moins de faf, moins de macronistes, moins de maladroits dans le lancer de projectiles.
Moi j'aimerais bien que tu arrêtes de te faire agresser dans les manifs, donc arrête d'insulter aussi les gens.
Non, mais dans le bloc, il y a majoritairement pas ça.
Ah ok, c'est dit. Super, merci, oui.
Moi, ma position, elle est simple. Il y a une stratégie de la division. La préfecture essaye de diviser les syndicats entre eux et le reste des manifestants.
En vrai, c'est ça
et
que je voulais dire.
Et ils y arrivent. L'État, la préfecture, la police arrivent à nous diviser car on leur en laisse l'occasion. Non, mais c'est vrai.
Ouais,
on
c'est
a
bien.
Trop de fierté. On doit se soutenir les uns les autres et non pas être dans l'attaque. Et si certaines choses ou certains choix sont reprochés, il faut qu'on arrive à en parler librement et à les surpasser. Il y a 2 semaines, un samedi, dans la même manifestation, lutter ensemble les uns à côté des autres, autonomes et syndicalistes. On était face à la police et on n'a pas lâché, dans un flou d'individus en noir, en jaune, en rouge.
À quel moment on dit amen?
C'est énorme ce que tu dis.
On a besoin de chaque groupe de lutte et de toutes les formes de lutte. Les autonomes sont aussi une force. Il faut savoir parfois mettre l'idéologie et les manières de faire de côté, les gars. Notre but est le même. Et il est de faire plier ce gouvernement, de ne pas se laisser de ne pas le laisser continuer à blesser nos hôpitaux, à privatiser nos autoroutes, nos aéroports et à détruire nos acquis sociaux. Petite question de nouveau, très rapidement. Seb, gros dada,
Oui. Pour
vous, comment se construit la lutte autonome et par conséquent, comment on perçoit ou comment on analyse le bloc aujourd'hui?
Nous, on n'analyse pas le bloc, on tend nos micros, ils nous répondent peu, c'est dur de répondre à cette question.
Ils nous insultent,
ils nous attaquent à coups de cutter dans les manifs comme pour Roland, quoi.
Très bien, pour ma part.
Non, ils font partie de la manif, ils font partie de la force, c'est certain.
C'est des Français comme tout le monde.
Et la question de leur organisation interne, en effet, se pose.
Bah, pour ma part, je dirais que pour que cela fonctionne, il faut une grande marmite. À l'intérieur, on doit mettre plusieurs ingrédients. La réflexion, de la conscientisation et de l'organisation. Puis il faut saupoudrer ça un peu d'action. Je vais prendre plusieurs exemples. Les 18 ponts. Les 18 ponts, c'était un lieu certes occupé, mais c'était surtout un lieu politique et militant. C'était un lieu d'organisation, un lieu de rencontre et de débat. Et c'est là que la préfecture a été forte, c'est là qu'elle a bien joué ses cartes. Ce lieu a été fermé. Un autre lieu a été occupé en début d'année, pour les mêmes raisons que le précédent. Il était dans un quartier populaire, proche d'un métro, de la ville, de beaucoup de choses. Et il a été fermé aussi. Et le but de la préfecture en le fermant, c'était justement d'éviter une forme d'organisation à grande échelle. Le bloc, qui je rappelle est une stratégie, a toujours été hétéroclite. Mais avec ce mouvement des Gilets jaunes, il y a un nouveau bloc qui s'est formé. Un bloc différent s'est développé. Il s'autonome les bébés. Petite blagoune.
Elle est bien. Moi, je l'ai
le même comme ça. Ouais.
Ce sont des groupes surtout affinitaires qui justement s'inspirent du bloc et de sa stratégie, mais sans boire dans la marmite. C'est-à-dire qu'ils reprennent une forme de stratégie, mais sans le bagage politique, l'organisation, la conscientisation et l'histoire de ce qu'est finalement le bloc. Alors oui, ils peuvent avoir des comportements particuliers, gênants, voire dangereux. Le bloc des Gilets jaunes était un bloc qui s'en prenait et se défendait surtout face aux forces de l'ordre, plus qu'il ne dénonçait les grandes filiales et les banques en redécorant leur vitrine. Mais du coup, je pense qu'il faut réouvrir des lieux d'organisation, dialoguer avec ces groupes de personnes, les aider à réfléchir, à trouver des solutions par eux-mêmes. On a besoin de retrouver une vraie unité dans la rue, une vraie stratégie, de construire un vrai dialogue. Faisons des choses osées, mettons nos égos de côté, ouvrons-nous aux autres et gagnons ensemble. Je fais moi aussi partie d'une organisation politique et pourtant je vais aux assemblées générales et je vais aux actions avec des professeurs, des cheminots, la CGT, Sud, les autonomes. On ne doit pas se limiter. On a des possibilités d'action partout, saisissons-les, c'est uniquement ensemble qu'on peut gagner. Merci de m'avoir écouté.
Alléluia. Allez, on passe au rouge, c'est terminé parce que rien n'a encore changé.
Il reste
on a
30 secondes.
On n'a absolument plus le temps, on se dit
avant
à mercredi.
Milky sur
parce
Milky.
Que Seb parle beaucoup trop. Enfin, Milky, je ne sais pas ce que vous
salut.
En pensez, je vais faire un sondage sur Facebook.
On se retrouve mercredi en manif et puis lundi
c'est
prochain.
Mercredi 29, la grosse manif là, cette
19h
semaine.
À 20h, on passe au rouge. Voilà, allez, ciao.
превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго.